la bouche qui craque, le cœur en slip, toi tu dérapes, et moi je flippe. On n'est pas trac, car ça secoue le bide en vrac, et nos quatre heures sur les genoux. Sur le manège, désenchanté, ça tournicote. Ménage à trois, aménagé, bah ça picote. Toi tu cocottes sur ton poney, moi j'ai la glotte toute serrée. Sur mon canasson décrépit, j'essaye en vain de te rattraper. Tu fais de l'œil sur ta monture à celui qui a pris la voiture. La plus belle du carrousel, on passe conquérant du futur. On est parti pour un tour.
J'ai des testicules froides et ma tête est une boîte. Regarde mes excréments, la course aux armements. Subi sexuel et le monde est cruel. Par le bien et le mal, le monde est brutal. J'encule la France, esprit de vengeance. J'ai des désirs morbides et j'aime les crimes. En un fait divers, intimement, j'ai sa mère. Ma conscience est tentée de fillette brûlée. M'adresse à tous, vous n'êtes que des chiens mous. Il faut vous réveiller ou bien continuer à vous massacrer avec brutalité. Et avec lâcheté, je me suis masturbé. Nous sommes égoïstes et bientôt fascistes. Dans ce monde purulent, c'est l'échec permanent.
Bonsoir à tous, vous êtes bien sur Radio Libertaire 89.4, radio sans 2 mm ni publicité. C'est Jeudi Noir qui démarre pour son émission de rentrée. On est très content de vous retrouver ce soir autour d'un livre que va vous présenter Michel, qui s'appelle Roman Noir et Lutte Sociale.
qui est édité en 2026, cette année, donc une fois de plus à la pointe de l'actualité. Hein, voilà, on a pu, je crois qu'on a pu le prouver. On a même, je sais pas pourquoi, voilà, on précise ça. C'est un livre de Sibylla Guénot, donc roman noir et lutte sociale, et c'est aux éditions Agone qu'on salue. Alors, c'est un roman qui est consacré à une page du polar français. Hein, Michel, tu vas nous en dire un petit peu plus, mais qui renvoie en fait aux liens anciens, mais particulièrement vifs, qui ont pu exister entre le roman noir ou le polar. Je ne sais pas si si on peut utiliser les deux termes comme synonymes. Et puis, eh bien, une forme, je dirais, de désespérance politique très féconde, proche d'un anarchisme qui nous est cher et qui justifie en fait ce choix de José, comme pour ne pas le nommer. Vous venez d'entendre Béroy et Noir, Manifeste 2, pour vous mettre en immersion, voilà, dans cette noirceur propre à Jeudi Noir et au roman dont il est question ce soir. Michel, le roman, en fait, il est construit en trois parties. T'as dit, c'est pas très long. Hein,
le livre, non, c'est pas très très long. C'est plutôt un bon bouquin qui fait à peu près 200 pages. Et globalement, il y a trois parties. Ouais. D'abord, elle décrit, Sibylla Guénot, donc décrit la génération d'auteurs qui a initié le néopolar. Ce qui a été baptisé le néopolar d'ailleurs par l'un d'entre eux, qui est très très connu, le plus connu, hein, Jean-Patrick Manchette. Ensuite elle fait un travail plus littéraire d'analyse stylistique et thématique des auteurs du néopolar, enfin de leurs bouquins, et elle termine par une présentation en quelque sorte de où elle se demande, enfin, la réponse, elle la donne un petit peu dans l'introduction, mais si c'était vraiment, s'ils ont mérité leur réputation de gauchistes, ou si politiquement, il faut les considérer autrement.
D'accord.
La réponse étant, oui, il faut les considérer autrement.
Bon. Et du coup, on peut prendre ça, ça me paraît très, très clair comme programme. Donc, du coup, parler de néopolar, on parle de qui, on parle de quand?
Alors, néopolar, on parle en gros de deux vagues. Il y a une vague dans les années 70 globalement trois auteurs. C'est Manchette, Signac et un autre qui s'appelle ADG. ADG qui a une position un petit peu particulière dans le bouquin parce que c'est le seul auteur de néopolar qui ne venait pas de l'extrême gauche mais qui était de l'extrême droite et qui est resté, voire qui a insisté là-dedans. Il faisait partie entre guillemets de la bande. Et ça, donc, il y a une première période dans les années 70-80. Ensuite, il y aura une deuxième vague avec d'autres auteurs comme Jean Vautrin, Frédéric Fajardy, Jean-Bernard Pouy, qui doit être très bien connu sur ces ondes, l'immortel auteur du non moins immortel Spinoza en cul et gueule, suivi de Hasek. qui est une espèce justement de
Spinoza qu'on salue, Hegel qu'on salue,
enfin, malgré tout. qui est quelque chose d'assez qui est un truc un peu drôlatique et assez plus dans un genre Mad Max limite qu'autre chose. C'est la deuxième vague dans les années 80. Donc je vous disais Fajardy, Vautrin, Pouy, Thierry Jonquet, aussi assez connu, je pense. Et Hervé Prudhon. Il y a aussi Didier Deninx qui est mentionné et qui est souvent rattaché à cette mouvance, peut-être du fait de son engagement à l'extrême gauche de très longue durée, puisque elle le rattache plutôt au polar classique. Donc voilà, ça c'est qui et quand à peu près. Donc voilà, deux vagues. Okay. Avec différents auteurs.
Et si elle leur consacre en fait une partie complète, c'est parce que la chronologie a un sens, c'est-à-dire qu'en fait la première vague, on est après 68.
Tout à fait.
Qu'il y a une rupture du coup dans la manière dont ils vont aborder le genre, j'imagine, ou quelque chose de cet ordre-là. Est-ce que c'est ces gens, t'as dit, ils font
c'est aussi une rupture politique, c'est-à-dire d'accord. Elle va dire globalement, c'est de ces auteurs, il faut considérer deux choses. Ils sont quasiment presque tous, à part ADG, tenter la révolution un peu avant 68 ou pendant 68. Ensuite, ils ont été extrêmement déçus par ce que certains vivent en partie comme Manchette, comme le moment de la contre-révolution. Et dans les années 80, la déception de leur côté, ben, ça va être à l'égard de la gauche du gouvernement, qui les déçoit beaucoup et qui va appuyer sur leur nihilisme, en quelque sorte. Donc là, ici, il y a sans doute quelque chose qui est lié au contexte politique et social français. Donc c'est pour ça que je pense que ces deux vagues font sens.
Okay. Et en fait, quand on parle de vagues, en fait, c'est des affinités personnelles entre eux. Ils se connaissent,
Ils s'aiment plus ou moins bien. Par exemple, Manchette méprise copieusement un auteur comme Fajardi, parce que Fajardi, lui, j'ai oublié, parce qu'il a, je crois qu'il a été maoïste, ensuite il était trotskiste, et dans ses romans, il cache pas du tout ses opinions politiques. Elles y sont assez premier degré, et pour Manchette, c'est un peu nul. C'est-à-dire, il trouve que en plus Fajardi écrit mal, et donc il le démolit un petit peu dans ses critiques. Mais sinon, oui, il y a eu une espèce quand même. La plupart se connaissaient. Est-ce qu'ils se sont fréquentés? C'est pas sûr. Ils sont à peu près tous nés dans les années 40-50. La plupart, dit-elle, viennent de milieux plutôt populaires, ont grandi en banlieue, ont fait des études supérieures. Donc il y a quand même une espèce de, comment dire, de ressemblance générationnelle, quoi.
Ok. Aussi. Et la deuxième génération, celle de Puy et consorts, en fait, donc ça, c'est, on est, qui sont plus jeunes, par définition. Ok.
Et il y a des plus jeunes, il faudrait voir. Ouais.
Des liens entre les deux, ou des éditeurs communs, ou des
sans doute des éditeurs, et puis la revendication d'un genre. Et elle, ce qu'elle essaye justement de faire, c'est de montrer qu'il y a une espèce d'unité quand même, que malgré les différences, et il y en a d'énormes entre eux, il y a quand même une unité de, pas de, forcément de style, mais, ou alors de style si on l'entend en un sens très très large. De façon d'envisager la littérature, de façon d'envisager le rapport au polar et au roman noir.
Et néo-polar, alors du coup, on est sur...
Alors néo-polar, on est sur un truc qu'elle va essayer un peu de démonter, parce que globalement, c'est Manchette, c'est Jean-Patrick Manchette qui a baptisé ce genre comme ça, avec de grosses références avec les romans noirs américains de la période des années 30-40, que sont Dashiell Hammett, Chandler, ensuite des gens comme James Cain, Chester Himes, Horace McCoy, Jim Thompson, avec, l'idée qu'ils vont essayer de renouveler le style aussi du polar français, en s'inspirant de ces grands exemples américains, parce que leur but, ça va être de, dans quelque sorte, de saboter le roman policier classique à la française, avec un enquêteur qui est souvent un flic, qui va résoudre un meurtre, et une fin où les méchants sont punis et tout va bien. Et ça va aussi s'accompagner donc de tout un travail stylistique. Donc c'est pour ça que ici néo, en quelque sorte, va être le côté nouveau va être revendiqué.
Il y a une dimension où on retire le soutien aux forces de l'ordre.
Carrément. Ah oui oui oui. C'est même plus un soutien critique. Hein, c'est... Non, justement, ça fait partie des trucs que Manchette avait vachement analysé dans le roman noir classique américain. Il dit, ça peut-être que j'y reviendrai plus tard, mais la police n'est pas, en quelque sorte, une promesse d'ordre et de salut. La police, dans un monde corrompu, est tout aussi corrompue que le monde dans lequel elle se manifeste. Et donc, on ne peut plus compter sur les policiers. Et c'est pour ça qu'il y aura, dans le polar, le personnage est toujours un privé. Manchette et les autres, ils vont tout casser. Le privé sera même, enfin, il y aura plus forcément vraiment d'enquête, et ce sera même plus un détective privé. Alors il y a quand même des personnages parfois de policiers qui reviennent, mais c'est plus un personnage inévitable, en tout cas dans le polar.
Et donc, deux générations, tu dis. Donc, en fait, avec une continuité, et puis voilà, c'est les points communs que tu viens d'évoquer, là. Et donc, on a une postérité, ça s'arrête, il y a un point d'arrêt de.
Alors, justement,
de la chose,
bah, elle pose la question. Ça s'est arrêté. C'est un mouvement qui a duré à peu près 20 ans, qui a eu pas mal de succès. Ils ont vendu beaucoup de bouquins.
Hachette a beaucoup vendu, mais pas que. Aussi.
Ouais, pas que, ils ont tous vendu pas mal. Le mouvement était... Ils avaient de bonnes critiques. Comment dire, ça a été considéré comme un mouvement presque littéraire, même s'ils avaient un rapport un peu particulier à l'institution littéraire elle-même. Mais ensuite, justement, elle dit, voilà, qui connaît aujourd'hui le néo-polar ? Et globalement, elle va dire que... Elle, un des problèmes qu'elle a avec, avec l'histoire qu'on a faite de ce mouvement, c'est qu'on a quasiment toujours tout réduit à Manchette. Et ça, elle pense que c'est une erreur historique, parce qu'il n'y avait pas que lui. Mais bon, comme il a aussi beaucoup... Il a lancé le truc, il l'a baptisé. Et en plus, il a beaucoup écrit dessus, et il l'a critiqué. C'est compliqué d'échapper à Manchette. Mmh. Et on voit bien qu'elle essaye de le faire, et elle cite beaucoup les autres. Mais régulièrement, elle revient à Manchette en disant, mais Manchette... Alors, elle est aussi assez critique avec lui, ça j'ai bien aimé, parce qu'elle dit que parfois, certains de ses jugements l'emportent pièce sur ses camarades, sur ses petits camarades, et sur le genre en général. Son passé, comment dire, exact. Mais ce qu'elle va dire aussi, c'est que, malgré tout, il y a eu peu de... Comment dire peu de postérité à de nombreux niveaux. C'est-à-dire qu'on est revenu quand même dans la littérature noire française... à quelque chose qui est beaucoup moins nihiliste, beaucoup plus avec beaucoup plus de flics gentils aussi, et qu'il y a cette espèce d'énergie un peu sauvage et comment dire nihiliste du néo-polar français des 70-80 qui s'est perdu dans l'aventure. Quoi.
Et deux mots peut-être sur le titre quand même, parce que le titre, oui. Donc, c'est « Roman noir et lutte sociale oui. ». Donc là, tu nous as parlé, tu as commencé à nous parler un petit peu de la vision de la société qui est derrière, donc une vision très critique, assez désespérée, effectivement, où l'ordre dont il est question et les forces qui sont à son service sont critiquées de partout. Oui. Mais lutte sociale, c'est-à-dire en fait, on a une articulation, on a affaire à une littérature de militants ou d'anciens militants, oui. Où c'est des romans qui mettent en scène aussi des formes de lutte sociale ou des personnages engagés dans des luttes sociales.
Alors, un peu des deux. C'est-à-dire que, par exemple, dans... dans Le Petit Bleu de la Côte Ouest, un des romans les plus célèbres de Manchette, un de ces derniers, qui a donné lieu au film Trois hommes à abattre. Par exemple, Georges Gerfaut, le personnage principal, est un ancien militant. Mais il est devenu cadre et son passé militant, il l'a complètement oublié. Je crois qu'il y a cette phrase de Manchette que je cite approximativement. À l'intérieur de Georges Gerfaut, on distingue quelques vagues idées de gauche. Et puis à un moment, il aura l'occasion de vivre éventuellement de façon un petit peu anarchiste à l'écart du monde. Et en fait, il s'emmerde. Il n'a pas envie de vivre dans la montagne en dehors du monde moderne. Et donc, il y retourne. Et puis, à la fin du roman, il fait ce qu'il faisait au début. Mais tu as aussi un roman de Manchette qui est aussi très connu, qui s'appelle Nada. Où là, tu as une espèce de pseudo-groupe terroriste complètement ridicule et meurtrier qui va ils vont tous se faire buter, hein. Mais comment ? Et donc dans les autres, alors moi je connais moins les autres. Hein. Moi je suis comme beaucoup. J'ai beaucoup lu Manchette, beaucoup moins les autres. Un peu de Déninx, un peu de Pouilly, sans doute un peu de Jonquet. Il y a très longtemps, mais Signac, je pense pas en avoir lu. Donc moi ma référence effectivement, comme beaucoup, c'est Manchette. Donc Manchette, c'est partie des trucs qui surnagent. Mais donc il y a ça, et puis après, tu as beaucoup aussi, mais ça peut-être que j'y reviendrai après. Lutte sociale, c'est que les personnages qui sont représentés, j'ai dit que c'était souvent pas des flics, c'est pas des privés, c'est souvent un peu n'importe qui, et c'est souvent des gros losers ou loseuses qui sont paumés dans la banlieue, à la campagne, et qui sont largués dans des affaires qui les dépassent complètement. Mais tu as toute une description finalement aussi de la marge, mais pas une marge, une marge plutôt paumée et voie l'autodestruction.
D'accord. Et donc, voilà, il y a cette espèce de starter là, le backlash après 68, c'est une espèce de redescente avec en même temps, on a tout le logiciel critique et révolutionnaire et ça coince et ça n'avance plus et du coup, ça crache.
Avec beaucoup de références à des théories philosophiques comme la théorie critique de l'école de Francfort. C'est des gens qui ont lu souvent, enfin au moins Manchette, ils ont lu Debord. Donc tu as toute une critique du côté spectaculaire. Et ils vont essayer de se situer, ça aussi je pense que c'est assez intéressant, parce qu'ils viennent d'une avant-garde politique, ils se lancent dans une littérature populaire, et ils détestent l'avant-garde et par exemple le nouveau roman. Ils veulent essayer d'écrire des histoires un peu prenantes, mais en même temps ils ont toujours ce côté un petit peu avant-garde, et ils vont quand même écrire des trucs qui sont, qui sont, elle le dit elle-même, qui ne sont pas toujours lisibles encore, et qui restent d'avant-garde.
Ok. Bon, on va faire peut-être une première pause musicale, donc avec, après cette présentation, d'Yves, Roman noir et lutte sociale, aux éditions Agon, de Sibylla Guénot. On se retrouve juste après la première pause. Bonsoir à tous, on se retrouve pour la deuxième partie de Jeudi Noir sur Radio Libertaire, 89.4, la radio sans Dieu ni maître ni publicité. Toujours autour de ce livre de Sibylla Guénot qui s'appelle Roman noir et lutte sociale aux éditions Agon, édité en 2026. Vous venez d'entendre le groupe Meurtre sur un titre qui s'appelle Et la nuit. Pourquoi ? Eh bien parce qu'on parle de roman noir et on parle du néopolar français post-68 art, pourrait-on dire. Donc Michel nous a présenté un petit peu les têtes de ligne, on va dire, dans la première partie. Alors, tu l'as dit, le livre de Sibylla Guénot, Roman noir et lutte sociale, donc commence par présenter ces deux vagues, ces deux générations qui vont renouveler assez profondément le genre du roman noir et du polar, de langue française, pourrait-on dire. Et dans une deuxième partie, ce qu'elle va développer, c'est quoi ? C'est finalement une espèce d'unité thématique, stylistique de ces deux générations, avec donc le pionnier Manchette et puis après d'autres figures.
Signac écrivait avant Manchette.
D'accord. Chronologiquement,
il est un peu plus vieux, il a écrit avant. Mais comme c'est Manchette qui a baptisé le genre, ça lui est revenu.
Et donc,
je sais plus.
Et du coup, tu dis dans cette deuxième partie, en fait, donc elle dégage quoi ? Elle essaie d'identifier des unités, des thématiques, des personnages, des trajectoires,
des thèmes qui seraient un petit peu elle essaie de dépasser aussi certains poncifs qu'on a eu sur le néopolar, qu'on a pu voir comme un polar de gauche un peu facile, je la cite, qui met en scène un grand massacre de bourgeois, de sabreurs, de gavés et de curés.
Il n'y a pas que les bourgeois qui meurent.
C'est ça, il n'y a pas que les bourgeois qui meurent. Et elle, ce qu'elle veut essayer de voir, c'est justement qu'est-ce que le néopolar change, en quoi est-ce qu'il est nouveau, et quelle est son unité, et est-ce qu'il correspond aussi à ce qu'on a pu voir. Et donc, comme j'ai dit, déjà, les personnages sont nouveaux. Avant, on avait Sherlock Holmes, on avait Hercule Poirot, on avait le commissaire Maigret... On a Nestor Burma, qui est un enquêteur, je crois, qui n'est pas un policier, je pense, Burma. Sherlock Holmes non plus, d'ailleurs, il est un petit peu à la marge. Poirot aussi. Maigret, c'est 36 quai des Orfèvres. c'est la police. Voilà. Et donc ici, il y avait donc les nouveaux personnages. Mais ces nouveaux personnages, ça s'accompagne évidemment, ça je vous l'avais dit, d'un changement en termes de récit. Puisqu'elle le dit, elle dit, voilà, qui mène donc l'enquête dans le néopolar ? Bien souvent, personne. La plupart du temps, il n'y a même plus d'enquête. Ici, on voit aussi l'influence, sans doute, des avant-gardes littéraires dont les auteurs de néopolar ont pu essayer de s'éloigner dans la destruction, finalement, du récit aussi. Et c'est une petite contradiction, puisque, je pense, je ne suis pas sûr qu'elle la souligne assez, je crois, parce que cette espèce, elle la souligne, je dis sans doute, quand même. Je suis peut-être de mauvaise langue. D'un côté, ils veulent faire du truc populaire. Donc, ils ont souvent bossé avec le cinéma, ils ont souvent bossé avec la BD, ils ont fait plein de trucs comme ça. Manchette, il a traduit des bandes dessinées.
Il a été aussi adapté en bande dessinée.
Il a été adapté beaucoup. Et donc, il a aussi beaucoup travaillé pour le cinéma. Parce qu'au début, il voulait faire des scripts pour le cinéma. Mais malgré tout, il y a une volonté de s'adresser à tout le monde.
Un public large.
Et en même temps, il y a une espèce de truc en sous-main qui travaille. Un truc un petit peu avant-gardiste littéraire où ça sabote quand même, tu vois, ça sabote. Et donc, il y a plein d'histoires qui se terminent très très souvent en queue de poisson. T'as rarement une fin qui est bien bouclée, qui est bien propre. Manchette, c'est un peu un spécialiste des trucs circulaires. C'est-à-dire, en fait, il s'est passé plein de trucs, mais ça n'a rien changé. Mais ce n'est pas le seul. Il y en a d'autres qui vont, écrire des choses où, par exemple, Signac, qu'est-ce qu'il fait, lui ? C'est la série Luge Inferman et la Clauduc, où, justement, là, tu as des... tu as deux personnages qui sont complètement à l'ouest et qui font un petit peu n'importe quoi. Et tu n'as pas forcément une intrigue romanesque, policière classique. Et donc ici, l'idée, c'est que, en quelque sorte, ces auteurs, malgré tout, veulent aussi par là témoigner d'une réalité un petit peu sans espoir. Ça, c'est un thème, c'est un gros, gros thème, c'est que ça ne va pas s'arranger, les gars.
Bon, c'est fin des héros.
Fin des héros, clairement. Et aussi, leurs personnages, elle le dit, sont invariablement détestables. C'est rarement un personnage auquel on a envie de s'identifier qui est au centre du récit. Donc parfois ils sont carrément même écœurants, mais quasiment jamais aimables. Par exemple, je regarde un petit peu l'exemple qu'elle donne. Dans Mardi Gris, c'est un roman, Émile Rochette, en cavale car accusé sans preuve du meurtre d'un policier, s'avère être un violent prédateur sexuel. Dans Groom, un autre roman, Haïm, dans toute sa vulnérabilité, exprime sans retenue une violence aveugle à l'encontre des femmes qu'il objectifie et tue. Luge Infernan et la Clauduc, compagnons de route et d'infortune, ne ratent pas une occasion de se nuire mutuellement et de s'attaquer à plus faible qu'eux. Donc là aussi, il y a une destruction du héros. Clairement, dans la Belle et la Bête, la Bête et la Belle de Jonquet, t'as aussi un personnage qui se réjouit de la mort d'un enfant. Donc, et globalement aussi, peut-être dans ce qui va changer un petit peu par rapport au polar classique, c'est que le roman noir s'est longtemps caractérisé par un certain réalisme littéraire, alors que le néo-polar pousse tous les curseurs à fond. Ce qui fait que, très très souvent, ça va produire des choses invraisemblables. C'est-à-dire qu'il y a des situations qui sont assez peu crédibles. Et donc là, justement, Sibylla Guaineau va dire que Manchette, quand il dit que le néo-polar a un peu sombré dans la facilité et a tendance à faire du pauvre contre riche ou personnage de gauche contre personnage de droite, elle pense que c'est faux, que c'est pas tout à fait vrai. Elle ajoute qu'on voit au contraire des représentations de personnages de marginaux qu'une haine féroce amène à s'entretuer, parfois sans réelle raison. Le néopolar se construit sur l'éternel échec de ces personnages, la naïveté de leurs espérances et la variété infinie de leurs défaites. Et donc, c'est moins manichéen que, d'après elle, que ce qu'a pu dire Manchette ou que ce qu'on a pu retenir après coup du néopolar.
Mais qu'est-ce qui reste de gauchiste, en fait?
Ça, c'est la question, mais ça, il faut le voir à la fin.
Ouais,
pour elle, rien. Oui, ou pas grand-chose. Parce qu'on est sur plutôt du nihilisme, et comme elle le rappelle, c'était pas forcément déjà à cette époque bien vu de la gauche. Et donc effectivement, il y a un petit souci. Et donc
pas de héros, pas de retour à l'ordre.
Pas de retour à l'ordre.
Voilà.
Lutte des classes, c'est perdu.
Ok.
On a, c'est bon, c'est réglé.
Pas de spéculation à la hausse non plus sur les capacités et les qualités des personnages.
Alors non, vraiment pas. Là, quand il parie sur le marché de l'humanité, sur la valeur potentielle de l'humanité, il parie un peu systématiquement à la baisse.
Et il s'agit de quoi? De sonder en fait les illusions de droite d'abord et de gauche aussi, parce qu'il n'y a pas de raison, c'est tout ce qui pourrait éventuellement permettre d'avoir un ordre juste.
Sans doute, oui.
Quelque chose
de cet ordre-là. Et donc on a forcément un désordre injuste.
Mm-hmm.
En fait, je pense que tu vois, ils ne sont pas non plus réactionnaires ou désireux de retour à un ordre injuste en se disant au moins on a l'ordre.
Mm.
Ils n'y croient pas non plus. Ça va être un désordre injuste. Quant à ceux qui luttent pour l'ordre juste, ceux-là, ils ont vraiment. C'est mort aussi, quoi. Ça va pas marcher. Et donc, malgré tout, je disais, c'est des personnages qui sont souvent marginaux, mais qui sont plus du tout. Elle dit en 68, être à la marge, c'est refuser un ordre établi que beaucoup voient comme problématique. Ce qui est donc perçu, du moins dans les milieux militants, comme quelque chose de positif et de courageux. Pure naïveté pour les romanciers du néopolar, chez qui les marginaux sont indifférents à tout questionnement politique ou même simplement revendicateur. Si on met de côté Luge Infernan et la Clauduc, seul personnage exprimant un refus net et assumé de ne pas faire partie du monde social normé, les néopolars mettent en scène des personnages dont le déclassement est tragique, cynique et meurtrier. Donc, ne rien attendre, en quelque sorte, du déclassement. Ce qui fait qu'ils vont aussi souvent mettre en scène des personnages qui sont atteints de maladies mentales, qui sont souffrants, qui sont abandonnés et qui sont, qui sont pas forcément plus sympathiques pour le demeurant. Puisque le personnage de Haïm, chez Jean Vautrin, conjugue maladie mentale, décompensation meurtrière et frustration sexuelle. D'ailleurs, elle va justement, là-dessus, je trouve assez intéressante. Alors, sur les policiers, il y a un gros discours critique sur les policiers. Je vais vous lire un petit personnage de Padovani. Qui a été. Donc Padovani, c'est un commissaire, c'est un personnage récurrent chez Frédéric Fajardi, qui était clairement d'extrême gauche et qui le manifestait régulièrement. Et donc. Alors, il y a autre chose. Alors, oui, pour les flics, qu'est-ce qui fait qu'on est flic? Et donc le flic dit « Mon père l'a été, je n'ai pas envie de parler de ça. Oh, et puis, je suis flic pour empêcher des manifestations de nature à troubler l'ordre public, pour assurer le libre et le libre fonctionnement des institutions républicaines, pour barrer la route à la clique marxiste internationale. Ah, il y a autre chose. La volonté de puissance. Aucun flic ne vous en parlera jamais, mais tous la ressentent. Ça peut être grisant. Songez, vous déambulez avec une arme dans son holster, là, tout contre votre hanche. Rien que cela. Vous êtes flic, c'est-à-dire intouchable, presque libre dans un monde de contraintes. Lors des situations conflictuelles, vous brandissez votre carte magique. Devant vous, pourvu que vous ne vous attaquiez pas à trop forte partie, on plie ou on casse. Vous n'avez pas grand-chose à craindre de ce monde violent. Vous avez passé un contrat, vous servez l'ordre, mais l'ordre vous sert. » Donc ça, enfin j'ai dit, mais ça dans la bouche d'un commissaire de police qui est de plus en plus, désabusé, évidemment, sur son propre métier.
Tu disais tout à l'heure, et ça c'est intéressant aussi, c'est qu'à la fois c'est des auteurs qui visent un large public, qui visent un succès en fait populaire quand même. Hein. Il y a quand même cette idée-là derrière. Et en même temps, ils ont effectivement ce logiciel avant-gardiste politique et militant pour un certain nombre d'entre eux. Et il y a cette espèce de chassé-croisé avec les avant-gardes littéraires. On essaie de faire de l'avant-gardisme de masse, quelque chose de genre-là. Est-ce qu'elle détaille un petit peu, dans son livre, la manière dont ça peut se manifester, cette espèce de chassé-croisé-là?
Ah oui, carrément.
Toujours dans Roman Noir et Lutte Sociale, hein, oui. je redis pour les...
Le Roman Noir donc, et Lutte Sociale de Sibylla Guénot, édité chez Agone.
Et donc ce petit chassé-croisé-là...
Alors, elle en parle un petit peu, parce qu'elle dit que, bon, ils détestent, qu'ils ne cachent pas leur mépris pour toute la... pour toute l'école du nouveau roman. Si on parlait d'une école, c'est un peu compliqué. Donc le nouveau roman, pour nos éditeurs ou éditrices qui ne sauraient pas ce que c'est, c'est un certain nombre d'auteurs, pour l'essentiel publiés chez Minuit, dans les années 50-60, avec en tête de gondole peut-être Alain Robbe-Grillet, et un roman comme Les Gommes ou La Jalousie, ou Nathalie Sarraute peut-être avec Tropisme. Qui d'autres encore on pourrait mettre dans cette mouvance? Michel Butor, j'en oublie certainement.
Et le
nouveau roman, c'était quelque chose où, par exemple, dans La Jalousie, Robbe-Grillet, il va vous décrire des plants de bananiers. Enfin non, c'est pas des bananiers, je sais plus. C'est une plante quelconque sur laquelle pousse un truc à bouffer. Et donc il décrit le truc. Et d'un point de vue romanesque, ça n'a aucun intérêt. On n'est pas sûr qu'il se passe quelque chose dans le nouveau roman.
Il s'agit de prendre le contre-pied systématique du roman classique avec des personnages, une intrigue, un début, un milieu, une fin, une résolution, des péripéties. Donc on est dans quelque chose effectivement qui ne finit pas, avec des personnages qui sont...
Qui ne sont pas des personnages.
Qui sont, voilà,
ils ont parfois des noms comme ça.
Et en même temps, ce que tu disais, c'est qu'en fait, dans ce néo-polar, en fait, il y a même s'ils passent leur temps à critiquer cette génération d'avant, en fait, il y a un certain nombre de reprises techniques et de rapports au récit qui sont un peu comparables.
Alors, elle dit aussi qu'il s'inspire quand même pas mal d'un auteur comme Céline, au niveau de l'oralité, au niveau de la vision du monde aussi, et le nihilisme célinien.
C'est pas le nouveau roman, Céline, mais c'est...
Oui, c'est ça, c'est pas le nouveau roman, mais dans les inspirations. Et après... par exemple, quelqu'un comme Jean-Bernard Puy était aussi membre de l'Oulipo. Donc l'Oulipo, c'est l'ouvrage de littérature potentielle avec des gens comme Georges Perec, Roubaud, Jacques Roubaud.
Au jeu littéraire, un attachement, à la productivité littéraire, des règles ou des contraintes
formelles.
En amont,
Et donc
bon. Ça, c'est quelque chose qu'on retrouve chez un certain nombre d'auteurs.
En particulier, ils vont souvent beaucoup quand même. Ils attachent une grande importance au langage et en particulier dans son. Ils espèrent quand même pas mal de choses là pour le coup sur le pouvoir de transformation du langage. Et ils vont souvent jouer sur les néologismes. Ils vont souvent, en reprenant des structures un peu orales de parole, ils vont rendre les choses peut-être un peu moins claires et un peu moins lisibles. Il y a quand même toute une réflexion sur le style qui peut aller relativement loin. Manchette est un grand, pratique beaucoup admire énormément ce qu'il appelle le béhaviorisme. Béhaviorisme, c'est l'idée que quand vous décrivez le personnage, on n'a aucune annotation psychologique. On ne sait pas ce qui se passe
dans la tête du personnage. Le personnage est une boîte noire. Tout ce qu'on voit, ce sont ses actes. Et donc, et pour Manchette, ici, ça a une signification politique. C'est-à-dire que pour lui, le style est politique. Et qu'est-ce que manifeste le behaviorisme ? C'est que dans un monde entièrement mauvais, l'intériorité du personnage juste n'a plus aucune valeur. Il peut avoir de grandes valeurs morales en lui. De toute façon, dans un monde pourri, elles sont ridicules. Et donc, tout ce qui va compter, c'est qu'est-ce qu'il fait et comment est-ce qu'à peu près il s'en sort.
Une espèce d'antipsychologie.
C'est ça, une antipsychologie. Et donc, malgré tout, avec tous ces procédés littéraires, beaucoup d'ironie aussi, ce qu'on retrouve de commun avec le nouveau roman, c'est quand même aussi une destruction du récit classique.
Oui, alors sur ce point-là, peut-être tu peux peut-être en dire un peu plus, parce que souvent, effectivement, le polar ou le roman noir sont associés à une forme de réalisme. Hein. Il s'agit d'aller plonger dans les cuisines, dans les coulisses, effectivement, là où on cache le mal, là où on cache un peu les saloperies des uns et des autres. Mais en même temps, cette caractéristique du polar classique, elle peut être enrôlée au service d'un discours de gauche. Hein, ça même est souvent été le cas. Là, tu le disais tout à l'heure, en fait, il y a aussi une espèce de d'adieu hein, qui est fait à cette méthode-là ou à ce style-là, c'est-à-dire il ne s'agit pas effectivement de proposer une espèce de description plus informée ou plus lucide qui permettrait éventuellement de mieux améliorer les choses, de mieux effectivement proposer quelque chose. C'est pas l'enjeu.
Alors là-dessus, ils peuvent être peut-être un peu quand même hésitants.
Parce que tout ce que tu mentionnes sur le rapport à l'oralité, sur le désenchantement, en fait, souvent effectivement le désenchantement, de la description de la vie sociale des personnages ou des trajectoires, c'est parfaitement compatible et c'est même souvent associé à un parti pris réaliste justement. Oui. Il s'agit de laisser de côté tout toute la vaseline que le roman peut produire pour faire accepter les choses telles qu'elles sont. Donc ça, évidemment, il y a un effet désenchanteur très fort. Ouais. Et en même temps, tu as des procédés stylistiques que tu mentionnais qui vont plutôt à l'inverse de ça, qui sont
complètement
avec une espèce d'aspiration à coller au mieux. Ça, est-ce que c'est assumé, revendiqué, est-ce que c'est
Alors je sais pas. Pour elle, c'est assez clair qu'effectivement, du fait des procédés qu'ils emploient, de leur goût pour l'exagération, de sans doute peut-être. Elle le voit plus ça comme elle fait des comparaisons, par exemple, avec le genre gore au cinéma. Mmh. Si vous connaissez un film comme Cannibal Holocaust...
La définition du gore, ce qui est à l'intérieur et dehors.
Donc le cinéma gore, c'est un cinéma dans lequel, un peu grand guignol, où vous avez des corps qui explosent, vous avez des litres de sang, ce qui est à l'intérieur et dehors. C'est un cinéma qui s'est un petit peu développé dans les 70-80. Elle y voit justement c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est il pousse tous les potards à fond en fait, tous les potards dessus. Et donc évidemment ils vont faire exploser le réalisme, ce qui les éloigne malgré tout en un sens d'une certaine forme de littérature populaire. Elle pense qu'il y a une des influences peut-être cachées sur ces auteurs-là, c'est le surréalisme. Parce que il y a aussi tout un tas de passages qui sont à la limite de l'onirique. Et donc elle essaie de construire, je pense, une image du genre qui est un peu plus riche que ce à quoi on aurait pu les réduire si on suivait trop aveuglément Manchette quand il parle en particulier de ses co-auteurs.
Et de manière juste, c'est juste pour information. Oui. La place des stupéfiants, justement, tu parlais des surréalistes à l'instant. Est-ce que c'est ça a été aussi une des grandes expérimentations un peu désespérées des années 70 et au-delà. Est-ce que dans les personnages, dans les situations, est-ce qu'elle en parle y compris par rapport à ce que tu évoquais à l'instant, là, sur les aspects stylistiques et tout ça, c'est une question qui peut se poser.
C'est plus dans l'autodestruction des personnages qui peuvent être justement des gens en roue libre et qui prennent à peu près tout ce qui vont se mettre dans le nez, dans les veines, partout dans le corps où ils peuvent des produits stupéfiants. Je pense qu'il y a ça. Ensuite, c'est pas forcément thématisé de manière
comment ça, dire, ça a pu l'être chez certains
ça
journalistes.
Ça a pu l'être, hein, ouais, bien sûr, aussi, oui. Bon, on va faire une
deuxième pause, avant que pause
et puis on conclura sur la politique du noir.
Allez. Et bien sûr, Jeudi Noir, Radio Liberté à 89.4. La voix sans Dieu, ni maître, ni publicité. Donc, on attaque la troisième partie de l'émission consacrée au livre de Sibylla Guénot qui s'appelle Roman Noir et Lutte Sociale, édité chez Agone, et bien cette année en 2026. Vous venez d'entendre un groupe typiquement stéphanois, nous dit-on, Königstein Youth. C'est une reprise de Black Flag qui ne sont pas à Saint-Etienne, mais là, vous avez reconnu la patte stéphanoise de cette reprise de 2013, Histoire de flic. Pourquoi Histoire de flic? Eh bien, parce que le livre dont nous parlons ce soir, de voilà, Roman Noir et Lutte Sociale, est consacré à l'histoire et aux propos, pourrait-on dire, du néo-polar français des années 70-80. Alors Michel, tu nous as parlé des deux premières parties de l'émission, ben, voilà, un petit peu de qui était embarqué dans ce mouvement littéraire, voilà, théorisé, thématisé par notamment Jean-Patrick Manchette, mais pas seulement lui. On a essayé de voir comment Sibylla Guénot, dégageait des thèmes un petit peu ou des styles propres en fait à ce courant très prolixe, hein, des deux décennies 70 et 80. Alors la question qui se pose, on a croisé quand même un certain nombre de questions déjà, mais c'est finalement comment on peut caractériser le politiquement en fait, hein, ce courant littéraire. Alors on a parlé d'avant-gardisme, on a parlé de nihilisme, on a parlé de désespoir critique, pourrait-on dire, dans l'approche, hein, qu'ils ont des personnages, des récits, des situations. Très souvent, le cliché, hein, sur les auteurs de romans noirs, du néo-polar, c'est... Voilà, c'est des gauchistes qu'on le somme, quoi. On va dire ça comme ça pour dire vite. Tu as mentionné quand même dès le départ que certains d'entre eux étaient plutôt marqués à l'extrême droite.
Un seul, ADG.
Un seul, hein, ADG. De fait, il n'y a pas beaucoup de perspectives, il n'y a pas beaucoup d'espoir. Il n'y a pas de, il y a absolument qu'une forme de militance, hein, particulière dans ce qui est mis en scène ou raconté chez ces auteurs-là. Alors, la dernière partie du livre, tu l'as dit, elle est consacrée à ça. Est-ce qu'il s'agit effectivement de 68 arts attardés qui ont le seum? Est-ce qu'on a autre chose? Qu'est-ce qui s'esquisse, hein, selon Sibylla Guénot, de ce néo-polar français des années 70 et 80?
Alors ils ont un peu dépassé justement la frustration, la colère, le seum, comme tu dis. C'est fou d'avoir des jeunes dans le studio comme ça.
Je m'étais pas rendu compte.
Tu t'étais pas rendu compte,
pas fait gaffe.
Et donc,
je suis comme ça. Hein, je,
c'est ça. Et donc, elle rappelle une chose d'ailleurs que j'avais oubliée, c'est que Manchette avait appelé ça néopolar de façon un peu ironique, avec le néo comme si c'était un ersatz, et plus une espèce de mauvaise plaisanterie. Donc il n'y a pas que le côté gauchiste un peu revanchard, il y a aussi un peu peut-être un aspect, on en est revenu, et en fait, tout ce qui nous reste, c'est de rire. C'est de rire un peu jaune au sujet de trucs horribles. Et donc là-dessus, parce qu'eux, on a souvent l'impression quand même d'être dans un monde qui s'effondre, où toutes les choses auxquelles ils pouvaient croire sont hors de portée. Et donc, c'est quand même un sentiment un peu apocalyptique qui les domine, disons. Et donc, t'as quand même pas mal de ça qui va être... Tout va devenir lugubre, tout va devenir marchand. Et bon, comme on l'a déjà souvent dit, noir c'est noir, il n'y a plus d'espoir. Dans le néopolar, ça marche assez pas mal. Et elle va dire, à partir de là, ce qui peut sembler assez évident si vous nous avez suivis jusqu'ici, mais elle le montre bien, Sybilla Guénot, qu'on a souvent fait l'erreur de confondre l'engagement politique dans la vie des auteurs et aussi leur pratique de l'écriture. Et en fait, ces auteurs ont rarement reproduit dans leur écriture leurs convictions de gauche, voire d'extrême gauche. Donc il va y avoir même, très souvent, une critique de la gauche et du militantisme de gauche. Qui est assez...
Propre à la gauche.
Oui, aussi, qui est propre à la gauche. Et donc, par exemple, le constat est clair dès le premier roman de Jean-Patrick Manchette et Jean-Pierre Bastide, « Laisser bronzer les cadavres », qui permet aux auteurs de railler une certaine gauche, comme le résume le critique Claude Méplède. Donc là, c'est Méplède qui écrit. « La révolution, donc, dans « Laisser bronzer les cadavres » est un souvenir, une nostalgie, bientôt un folklore. Enfin, une bouffonnerie cruelle. On chante la jeune garde dans la ruelle du hameau de Luce. On cherche un anniversaire à fêter et on retrouve la date d'un ordre du jour de Trotsky. » Donc, voilà, c'est plus... et effectivement, la phrase que je vous citais tout à l'heure, un peu plus tard, la question politique sera traitée encore de façon moins frontale par Manchette et un peu mise à distance. Et c'est des allusions plutôt humoristiques. Pas ainsi, donc là, elle cite Manchette, « L'intérieur de Georges Gerfaut est sombre et confus. On y distingue vaguement des idées de gauche. » Bon, ça, c'est le style de Manchette que personnellement j'adore. « À la désillusion a succédé l'indifférence. Georges Gerfaut, héros du petit bleu de la côte ouest, et pourtant un ancien militant, comme on le découvrira quelques pages plus loin. Mais il semble avoir oublié ses engagements passés, une fois embourgeoisé et devenu cadre. L'engagement politique s'oublie vite, nous dit Manchette, désabusé. » Et donc, ce que vont faire les auteurs de Néopolar, alors une autre petite citation peut-être de Jean Vautrin, « La politique, on s'en fout pas mal, c'est plutôt pour arrondir notre fin de mois qu'on a dit oui à Jojo Meunier, qui doit être sans doute quelqu'un qui est engagé dans une campagne électorale. En préélectoral, l'argent circule. Autant que ce soit nous qui en profitions. Surtout que l'essence vient encore d'augmenter. »
Est-ce que le mouvement punk en France, il serait pas passé par le polar plutôt que par le par la musique?
Ah non. Ben oui, en partie. tu veux dire?
Vas-y. Vas-y, prends.
Pour Jean-Patrick Manchette, il y a un rapport au jazz. Je suis désolé, c'est Yves Jazz Lib. Et en fait, dans le petit bleu de la côte ouest, c'est un double jeu de mots, puisque c'est lié à la West Coast. Oui. Et dans tout le bouquin, c'est ponctué de titres de la West Coast. Voilà, j'interviens juste là-dessus. C'était juste ma petite parenthèse.
Petite parenthèse de Jazz Lib.
Quel art de la transition.
Et donc, effectivement, alors Manchette, lui, je pense que vu sa date de naissance, il était sans doute plus jazz que punk. Mais il faudrait voir pour les autres, parce que ceux qui sont arrivés un petit peu après, effectivement, ont pu être sans doute influencés par le punk. Mais alors, elle termine justement sur le punk, elle, parce qu'elle va dire, bon, ils sont passés finalement de la critique. Cette évolution des sujets dans l'œuvre de Manchette et de Vautrin illustre un passage de la critique politique à la critique sociale. Et ça va être le thème, c'est l'abandon de la lutte ici, mais ça va être aussi après ça va devenir une espèce de jeu de massacre, mais jeu de massacre de la vie quotidienne dans un monde pourri. Et effectivement, elle pense que il y a tout un tas de passages assez intéressants sur la représentation des villes, la représentation des campagnes,
comment est-ce qu'ils voient ça, parce que justement ils vont investir de nouveaux lieux à décrire. Ce sera plus le centre-ville de Paris, ce sera pas une grande ville de province, ce sera la banlieue. Et c'est là, ils vont thématiser la banlieue, où il y aura toute une, et ils vont montrer à quel point finalement on y a parqué les gens dans des endroits qui sont laids et sans espoir aussi. Et elle termine en disant, il y a quand même peut-être justement un gros rapport avec le punk, parce que dans le punk, elle se dit, est-ce que le punk a aussi un rapport peut-être un peu complexe à l'avant-garde, puisque c'est souvent un mouvement quand même plutôt populaire, mais qui se vit comme un peu quand même à, je sais pas si on peut dire à l'avant-garde artistique.
Oh bah, si, clairement.
Si, clairement, ouais, un mec comme Malcolm McLaren.
Et donc, un grand lecteur de Debord aussi.
Aussi, oui. Et donc, et pareil, on va voir dans le punk, tout un, les paroles sont souvent des paroles de critique sociale, avec un gros désespoir politique, avec un no futur, qu'on trouve aussi dans le roman, dans le néo-polar. Et elle se dit aussi, elle se demande, et pareil, certains groupes de punk comme Crass étaient engagés politiquement de façon extrêmement claire et nette, pas tous, et ensuite, comment on retrouve aussi dans le punk cet amour de la provocation. Et elle cite des passages de, comment dire, de fanzines qui sont... qu'on pourrait retrouver dans certains passages, comment dire, de Pouy ou d'autres. Donc, par exemple, ça c'est quoi? Extrait du magazine New Wave. Brejnev est grand et Nina Hagen n'est pas son prophète. Camarade, un nouveau danger menace notre patrie socialiste. Alors, ça, après avoir développé ses manœuvres subversives en Tchécoslovaquie, en Éthiopie, en Afghanistan, l'impérialisme, le capitalisme et la réaction mondiale se mettent à vouloir saper les fondements mêmes de la morale socialiste de nos vaillants jeunes pionniers. Et donc, pour ce faire, ils ont inventé une nouvelle mode, le punk. Et les punks sont la tendance la bourgeoise la plus réactionnaire à avoir jamais existé. Évidemment, c'est des punkidis. Bon, il a tout ce côté, on tire à peu près sur tout ce qui existe et on se marre bien.
Mmh. Bon, en tout cas, voilà. Ni progrès social, mais oui, encore moins de conservation.
C'est ça.
Le conservatisme.
C'est ça. Donc, voilà, bah, on va s'arrêter là. On va laisser la place à Yves de Jazz Libre. Donc, c'était un prochain livre. Donc, si vous aimez le roman noir ou le polar comme moi, je vous le recommande. Hein. C'est une lecture intéressante. Il y a plein de choses dont je ne vous ai pas parlé parce que c'est un livre assez riche. Qui donc un livre de Sibylla Guénot qui s'appelle Roman noir et lutte sociale, édité chez Agone assez récemment.
Voilà, et nous on se retrouve dans 15 jours pour de nouvelles chroniques. Et on vous laisse avec un dernier morceau de Betty Chiclop, hein, voilà, des sombres histoires, hein, puisque c'est le thème de la soirée.
Vivre de sombres histoires, est-ce que je préfère un repère au lit et l'inventaire où se replient les sombres? C'est une odyssée sans espoir, une balade en enfer. Vivre de sombres histoires, est-ce que
prédire le meilleur, sans imaginer le pire. Les autres sont là pour croiser les doigts. Moi je verse des larmes sur l'avenir en
Bonsoir, c'est GMC+, c'est Yves au micro. Vous êtes sur Radio Libertaire 89.4. N'oubliez pas de consulter la page de la radio, radiolibertaire.org, l'agenda. N'oubliez pas non plus de consulter ma page Facebook GMC+, ou Yves Jazzlib. Et je vous rappelle que vous pouvez réécouter l'émission pendant 12 mois après la fin de la diffusion sur le podcast de la radio, où vous avez l'ensemble de la grille des programmes, l'ensemble de l'agenda. Et ce soir, c'est une émission enregistrée et qui est consacrée de nouveau au compositeur Béla Bartok. Alors ce soir, je vous propose plusieurs choses, notamment le concerto pour orchestre, qui a été composé en 1943 et qui, en 1945, à la demande de Serge Koussevitzky, Bartok va composer une seconde cadence finale pour le cinquième mouvement. Alors, c'est effectivement une œuvre en cinq parties. La première s'appelle Introduzione, Andante non troppo, Allegro vivace. Alors, on utilise beaucoup les termes italiens en termes de tempo. La deuxième partie s'appelle Gioco del Copie, Allegretto Scherzando. Alors, ça veut dire jeu de couple, c'est-à-dire qu'en fait, Béla Bartok va introduire la deuxième partie avec par des couples de deux instruments identiques, de clarinette, etc., etc. Ensuite, la troisième partie s'appelle Elegia Andante non troppo. Ensuite, la quatrième partie Intermezzo Interrotto Allegretto. Et enfin, le final Pesante Presto. Alors, je vous ai pris alors pour l'occasion une version assez ancienne qui date de 1959, je pense, avec Geza Honda au piano. L'orchestre symphonique de la radio de Berlin, je vais y arriver, dirigé par Ferenc Fricksay, je ne sais plus comment on dit, très très précisément. On situe un peu cette œuvre dans l'esprit ou dans le sillage du divertimento dont je vous avais parlé la dernière fois dans l'émission consacrée à Béla Bartók, et notamment du mandarin merveilleux qu'on a aussi sous-titré mandarin miraculeux au début, mais c'est plutôt merveilleux. Et donc on est dans une œuvre orchestrale où on retrouve un petit peu tous les gimmicks de Béla Bartók, et il y a là un certain nombre de choses qu'on va retrouver dans ces lubies, on va dire, c'est-à-dire la musique folklorique. On va même retrouver des choses un petit peu liées à la musique modale arabe, voilà, ce genre de choses. Et puis vous retrouverez dans des thématiques pour nous, enfin pour vous, amis jazzmen qui écoutez mon émission, on va retrouver des choses, notamment, je ne sais plus dans quel mouvement, mais je pense que c'est dans le quatrième, des thèmes qui évoquent par exemple le Nefertiti de Wayne Shorter. Et puis il y a beaucoup de choses que le cinéma ou même les séries télé vont s'emparer, je pense notamment à la série américaine hyper célèbre, Les Envahisseurs, vous savez, avec Vincent les a vus, il sait qu'ils existent. Et il y a là une musique avec des effets un peu dramatiques qu'on retrouve.